Jean-Ri Chopin, le docteur Burpitt. Un jour de l'été dernier, vers les 8 heures du matin, comme mon ami Adalbert Gompf allait sortir de chez lui pour se rendre au palais, car il faut vous dire que mon ami Albert Gompf est juge d'instruction et certes tout le contraire d'un mauvais plaisant. C'est la dignité, le sérieux, la correction en personne, tout à fait incapable de commettre, même d'imaginer, fût-ce en rêve, quoi que ce soit pouvant ressembler, fût-ce de loin, à une fumisterie. Comme homme grave, je ne vois guère pour lui être comparé que le président actuel de la République française. Inutile donc, je pense, d'insister. Donc, un jour de l'été dernier, comme mon ami Adalbert Gompf allait sortir de chez lui pour se rendre au palais, son valet de chambre lui remit une carte ainsi libellée. Le docteur Burpitt. Burpitt, je ne connais pas. Qui diable ? Ah ! Il venait d'apercevoir dans le bas de la carte, écrite au crayon, ces quelques mots, de la part de M. Bougonniot. Bougonniot était l'ami intime d'Adalbert Gompf. « Faites entrer, dit-il. » Le docteur fut introduit. À son aspect, le juge d'instruction ne put, malgré son habituelle impassibilité, retenir un mouvement de surprise. Le docteur, en effet, présentait cette étrange anomalie d'être un nègre du plus beau noir avec des yeux d'homme blanc, mais de blanc tout ce qu'il y a de plus septentrional, des yeux bleus, très pâles, très froids, très clairs. La surprise de M. Gompf redoubla quand le docteur, après quelques mots d'excuse sur le rendu de sa visite, ajouta en souriant d'un sourire étrange « Oui, je vois, mes yeux vous étonnent, n'est-ce pas, monsieur ? Je pensais bien qu'ils vous surprendraient. À vrai dire, je ne suis venu ici que pour vous faire bien regarder, afin que vous puissiez plus jamais les oublier. » Décidément, c'était un fou. Le sourire l'indiquait, et la phrase encore plus que le sourire. Cela d'ailleurs était dit tout doucement, de cette voix enfantine, zézayante, particulière aux nègres, avec les airs s'écrasant sous la langue, en flûtement mouillé. Et dans ce gazouillis, les paroles au sens mystérieux, presque menaçant, n'en avaient que mieux l'air d'être proférées au hasard par un être dénué de raison. Mais à coup sûr, le regard, le très pâle, très froid et très clair regard des yeux bleus, n'était pas d'un fou, certes. Il disait nettement la menace, en vérité, oui, la menace, et aussi l'ironie, et par-dessus tout une férocité implacable. Ce ne fut qu'un éclair, mais flamboyant, de façon qu'on ne put en effet jamais l'oublier. Et l'on comprendra sans peine que j'ai senti passer en moi le petit frisson lorsque mon ami Adalbert Gompf me fit l'honneur de me raconter cette histoire. L'impression fut si forte alors que M. Gompf crut être le jouet d'une hallucination, d'autant que le docteur, sa phrase prononcée, continuait en souriant de plus belle et avec son accent le plus puéril. « Assurément, monsieur, vous devez ne rien comprendre à ce que je vous dis. Mais de cela, aussi, veuillez m'excuser. Demain, vous recevrez une lettre qui vous expliquera tout. Mais il était nécessaire d'abord que je me fisse voir à vous, ou du moins, je vous fisse voir, bien voir, tout à fait voir, mes yeux, qui sont moi, moi seul, et vrai bois. Comme vous en jugerez, monsieur a l'avantage. » Après quoi, sur un salut d'une suprême distinction, le docteur se retira, laissant le juge d'instruction abasourdi, en proie à ce doute. « C'est pas possible, voyons, c'est un aliéné. » Pourtant, la force expression, la profondeur criminelle de ce regard, paraît-elle pour moi aussi le bizarre contraste de la face ténèbre ? Mais non, pensa-t-il, après être resté absorbé pendant quelques instants. Je ne suis le jouet d'aucune hallucination. Il n'y a aucun phénomène d'optique. Cet homme est évidemment un scélérat effroyable. J'ai failli à tous mes devoirs en ne l'arrêtant pas moi-même, séance tenante, au risque de ma vie, illégalement, n'importe. Et il se précipita dans l'escalier, mais trop tard, le docteur avait disparu. Adalbert Gonf courut chez Bourgogneau pour lui demander quelques éclaircissements. Il ne connaissait pas le moins du monde le docteur Nègre, et sur l'insistance du juge donnant le signalement du docteur, avec mention spéciale de ses yeux si extraordinaires, Bourgogne se mit à rire et dit « T'as eu certainement affaire, cher ami, à un mystificateur. Les yeux que tu me décris là sont des yeux de blanc, sans doute possible. L'individu devait être barbouillé. » Rassemblant alors tous ses souvenirs, Adalbert Gonf reconnut que le docteur, en effet, n'avait guère du nègre que la noirceur, la chevelure et la barbe en toison, le parler facile à contrefaire, mais nullement le type ni même l'allure onduleuse si caractéristique. Peut-être bien donc n'était-ce qu'un mauvais farceur. Tout le jour, le juge d'instruction se complut dans cette idée qui blessait un peu sa dignité d'homme grave, mais qui apaisait ses scrupules de magistrat. Le lendemain, il recevait la lettre promise. Elle était écrite ainsi que l'adresse en mots imprimés, découpés dans des journaux. « Monsieur, disait la lettre, le docteur Burpitt n'existe pas. Mais l'homme dont vous avez vu les yeux existe, lui. Vous le reconnaîtrez sûrement à ces yeux-là. Cet homme a commis deux crimes. Il n'en a pas de remords. Seulement, étant psychologue, cet homme a peur de céder quelque jour à l'impérieuse tentation de confesser ses crimes. Edgar Poe a écrit là-dessus des chefs-d'œuvre qui sont l'exacte notation de la vérité. Toutefois, il oubliait de poser et noter ceci. Le démon de la perversité ne tente qu'une fois. Eh bien, voilà qui est fait. Vous aurez mon secret, car le jour où vous ne me reconnaîtrez à mes yeux, vous chercherez à découvrir de quoi je suis coupable et comment je le fus, et vous le découvrirez, étant un maître en votre profession. Félicitez-vous d'avoir eu l'honneur d'être choisi par moi pour porter le poids de ce secret. Désormais à nous deux, je dis à nous deux seuls. Je vous mets au défi, en effet, d'obtenir ce secret sous forme d'aveu public, puisque maintenant, j'ai trouvé le moyen de vous le faire à vous, l'aveu, et sans danger. Un mois plus tard, dans une soirée, Adalbert Gonf rencontrait M. X, et le premier coup, sans hésitation, il reconnaissait en lui des extraordinaires yeux bleus. L'homme, lui, demeura impassible, si bien que le juge d'instruction se crut décidément, et cette fois surtout, halluciné. Néanmoins, il se livra à une enquête sur la vie de M. X et apprit ceci qui a levé tous ses doutes. 3 ans auparavant, M. X était un pauvre étudiant en médecine, brillant d'ailleurs, et qui s'était fait remarquer par de curieux travaux microbiologiques. Une veuve très riche s'était éprise de lui et l'avait épousé. Elle avait de son premier mariage un enfant. En 6 mois de temps, l'enfant, puis la mère, étaient morts de la fièvre typhoïde. Et M. X avait hérité, en bonne et due forme, de la grosse fortune. Pour le juge d'instruction, pas de doute possible. M. X avait empoisonné ses deux victimes avec des microbes de fièvre typhoïde, savamment cultivés en elles, de façon à rendre l'infection invincible, même aux soins du dévouement le plus admirable. « Tu crois cela, toi ?» demandai-je à Adalbert Gronf. « Pourquoi pas, mon cher ? Et le pire, c'est que le scélérat a raison en me défiant de le contraindre à un aveu public. Et le moyen d'y arriver ?» Puis, avec un gros soupir, « Oh, la justice d'autrefois avait du bon !» Et comme mon regard l'interrogeait, Adalbert Gronf ajouta d'un ton très ferme et très convaincu, « Eh oui, mon cher, la torture !»